Alors finalement, un obélisque a été donné à la France, l'autre obélisque a été donné à l'Angleterre. Mais le deuxième obélisque, c'est-à-dire celui qui était décidé à l'Angleterre, était particulièrement en mauvais état. Et on est un peu en droit de se demander si pendant quelques temps, on n'a pas joué un peu à cache-cache avec ça pour savoir qui est-ce qui prendrait celui qui est le plus moche. Ce qui fait que l'affaire en était encore à ce point en 1828. Et 2 ans plus tard, on en était encore là. Alors le 28 août 1928, Champollion rend visite. Alors là, il y avait une erreur. Rend visite l'erreur c'est après que va se passer. En 18 août 28, Champollion rend visite aux aiguilles de Cléopâtre, c'est ainsi qu'on appelait les deux obélisques d'Alexandrie, et il constate que aussi bien les colonnes sont en très mauvais état. Cependant, il insiste pour que celui qui appartient à la France soit enlevé le plus tôt possible, parce qu'il craint un changement d'avis du côté du vice-roi d'Égypte. On n'aurait pu ne rien voir du tout. D'après ce que j'ai compris. Et tout ça, ça sort de notes que nous avons glanées un petit peu partout avec mon équipe, une partie est ici. Alors, Champollion identifie les deux aiguilles de Cléopâtre, dont je parle de celle de ceux d'Alexandrie, comme étant consacrées à toute cause histoire, et celui qui devait aller en Angleterre, on a l'impression que personne n'en veut, le nôtre n'est pas très chaud non plus. Enfin, sur ces entrefaites, Champollion, qui avait vu ceux de Thèbes en mars 29, c'est-à-dire très peu de temps avant, revient sur sa décision de prendre ceux d'Alexandrie. Et par sa décision, c'est lui qui le dit, hein, et souhaite se fixer sur ceux de Thèbes, parce que ce sont des monuments, en fait, qui sont en presque parfait état, avec presque, après je vais mentir, on verra ça tout à l'heure, et en plus, ils ont la signature du pharaon qui les avait fait édifier, n'est-ce pas, c'est-à-dire le prestigieux Ramsès II, le Napoléon d'Égypte. Et finalement, bon, tout ça, il y a eu un peu de tirage. En France, on veut savoir combien ça va coûter. On parle de 300 000 francs or, mais on ne sait pas encore si on réglera l'affaire avec ça. En revenant d'Alexandrie, Champollion rencontre à bord du bateau, l'Astrolabe, le lieutenant de vaisseau Verinac de Saint-Maur. Et c'est vraisemblablement là qu'entre les deux hommes, il s'est lié une certaine sympathie, et c'est ce qui nous vaudra que Verninac soit mort, on en entendra parler tout au long de cette histoire. En attendant l'affaire des obélisques piétines. Alors, décision est prise de faire enlever celui d'Alexandrie par la gabarre le dromadaire. Ça, c'est vrai. C'est par la suite qu'il va y avoir des confusions. Alors, des complications arrivent avec le consulat d'Angleterre, à qui ça ne plaît pas, voyez-vous. Et les événements de juillet 1830 vont évidemment aggraver la situation. Alors, par lettre du 29 novembre 1830, malgré l'opposition du consulat d'Angleterre, le vice-roi d'Égypte, son hôtesse Mohamed Ali, mettait l'obélisque d'Alexandrie 1, 2 et non pas 1, et les deux de Thèbes, dont avait parlé Champollion, c'est-à-dire en tout trois obélisques, à la disposition de la France. Alors, la Gabarre, le dromadaire, est revenu à vide, l'Alexandrie, pour insuffisance d'équipement. Celui qui était destiné à la France est donc purement et simplement abandonné. Il finira par aller aux États-Unis et s'adresse aujourd'hui à New York, à Central Park. Je ne sais pas dans quel état il est, d'après ce que j'ai vu à l'époque, ça ne devait pas être pire. Le deuxième obélisque a été restitué à l'Égypte, l'opération du premier et son installation à Paris ayant été jugée trop coûteuse. Voilà, alors ça règle le problème d'Alexandrie. Alors, maintenant, qui était Verninac de Saint-Maur? Alors, c'est une famille de Souillac. Jean-Baptiste Verninac de Saint-Maur commence sa carrière dans la marine royale en 1813 et naviguera jusqu'en 1848. De juin 48 au mois de juillet, en juin 48 au mois de juillet, il est secrétaire d'État à la marine. Louis-Napoléon ensuite le fait nommer contre-amiral en 1849 et en 1852, il prend le titre d'amiral. Amiral, c'est pas un grade. L'amiral, c'est comme dans l'armée de terre, la première classe et le maréchal de France. Ce sont des titres, ce ne sont pas des grades. Au-dessus, bien sûr, on ne monte pas au-dessus des maréchals de France, on ne monte pas au-dessus de l'amiral. Le grade le plus haut, c'est le contre-amiral. Et il va terminer. En 1849, donc il a été nommé contre-amiral, et c'est en qualité finalement de contre-amiral qu'il va aller à Ireland. Il est nommé comme. Il avait eu le titre, je ne le retrouve pas. Il avait été nommé gouverneur des établissements français d'Anvers. Alors la carrière de Raymond Verninac devait être traitée par Léon d'Autrebain. Bon, c'est moi qui l'en ai chargé. Elle est disponible. Notre présidente l'a vue. Bon, elle est disponible. C'est ce que je peux vous dire. Alors. La Corrèze va encore être intéressée pour cette affaire. C'est un transporteur tulliste, on disait autrefois un roulier, Jean Tremont, qui, avec un équipage de 22 chevaux et un véhicule de son invention, transportera un monolithe de 100 tonnes extrait de la carrière de la Botte. Elle existe toujours, mais elle n'est plus utilisée. À Tulle, jusqu'à Paris. Ça, on en reparlera à la fin de mon exposé. Bien, alors, ensuite, nous avons donc formé une équipe, une petite équipe. Il y en a une partie ici, il y a Madame Sejral, il y a Madame Foulonnier. Et nous sommes tous mis à la recherche de tous les documents qu'on pouvait trouver pour faire l'étude concernant cette histoire de l'obélisque, parce qu'en fait, nous n'avions absolument que ça. Alors là, on voit. Est-ce qu'on peut revenir en arrière là? Merci. Bon, alors, ici, nous avons groupé sur le même panneau trois personnes dont les noms vont revenir tout au long de cette aventure, disons. Alors, il y a d'abord Apollinaire Lebas, ingénieur de la marine, architecte de la marine,
qui va être chargé de toute la partie technique concernant, d'une part, l'enlèvement de l'obélisque, le transport de l'obélisque et l'implantation de l'obélisque. C'est lui qui fera tous les calculs, qui inventera tout le matériel pour pouvoir faire les travaux. Pour toute cette affaire, donc, il faut bien dire, c'est à le bas qu'on doit. Hein. Bon, ensuite, le personnage que vous avez ici, c'est donc Raymond Verny-Luxembo, qui à l'époque était lieutenant de vaisseau quand on lui a confié d'aller chercher l'obélisque et le ramener en France, via Toulon. Et il a été nommé capitaine de vaisseau, et de là il s'est envolé vers des altitudes bien supérieures. Et enfin, c'est lui qui a eu le mérite de le ramener. Les deux opérations, celle pour aller chercher et pour en venir, avaient été particulièrement délicates, mais elles s'étaient très bien passées. Léon de Joanny, c'était son officier second. Alors là, je reviens à Apollinaire Leval. Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé d'un certain dromadaire qui était revenu à vide, parce que, il n'était pas en mesure de ramener l'obélisque d'Alexandrie. Deux, on n'avait pas pensé au matériel additif qu'il fallait pour faire ces opérations. Et alors, quand Leval était chargé de cette affaire, alors lui, il a commencé à prendre le problème par le bout qu'il fallait, c'est-à-dire par le début. Et la première chose qu'on a faite, ça a été évidemment de fabriquer un bateau qui était capable à la fois de tenir la mer et à la fois de circuler entre les bancs de sable et les îles du delta du Nil, ce qui n'était pas une sinécure. Ils ont eu de la chance de pas avoir de problème, mais c'était quand même quelque chose de particulier. La route acrobatique. Alors, ensuite, alors, Vernina donc, a été chargée de ce transport, et à partir du moment où il est rentré dans le delta, on ne pouvait plus rien pour lui, on pouvait le remorquer, parce qu'il avait été remorqué avec le seul et unique bateau à vapeur qu'on possédait à l'époque et qui était un bateau militaire, le seul et unique qu'on avait. Et je vous signale, pour ceux qui connaissent un peu les questions maritimes, qu'il développait avec une chaudière à charbon la force formidable de 155 chevaux. Vous n'avez qu'à voir, vous avez ça en moteur au bord aujourd'hui. Bon. Va se passer comme ça jusqu'au moment où le bas va prendre en charge le travail sur les lieux. Alors maintenant, on va aller sur les lieux et on va aller voir ce qui s'est passé. Vous pouvez passer la seconde, s'il vous plaît. Ah, merci. Alors, avant d'aller sur les lieux du chantier. Alors voilà un dessin de Vivant Denon qui avait accompagné l'expédition de Bonaparte en Égypte en 1798 et qui représente le temple de Thèbes. Les deux pylônes, ce sont les deux pylônes d'entrée du temple de Thèbes. Bon, ça c'est une mosquée qui avait été construite par qui vous savez. Et puis ici, ce sont les deux obélisques qui donc existaient à ce moment-là, à cet endroit-là. Bon, après, on verra. Je vous l'ai déjà dit, je vous le recette pas. Bon, alors, dès que le bateau, donc le Louxor, est arrivé à Thème, est arrivé à Louxor sur les nues, alors là, les alliés ont commencé. Ils ont débuté par une épidémie de dysenterie. Ils ont perdu deux marins, sont morts. Une douzaine d'autres ont été très malades. Et quelques temps après, la situation a été aggravée par une épidémie, si on peut dire, de choléra, quoique là-bas, il est toujours sur place plus ou moins. Bon, alors, malgré ça, ils vont donc attaquer le travail. Alors là, je préfère vous. Alors déjà, on pourrait peut-être, on va le présenter tout à l'heure. Vous montrer déjà. Alors déjà, la situation, qu'est-ce que c'est qu'il y a après? Bon, par exemple. Alors, voilà la situation d'un plan avant qu'il fasse le tremblement. Alors, c'est un plan grandi. Alors, en profil, vous avez le Nil qui est ici, le bateau, le Louxor qui arrive ici sur sa position d'échouage où elle va rester jusqu'au moment où elle va partir, n'est-ce pas? Et ici, vous avez entre le bateau et les pyramides, les obélisques, vous avez 400 mètres. Problème. Là, ils sont arrivés juste au moment où il fallait pour avoir assez d'eau pour aller assez loin. Et ils n'ont pas pu aller plus loin. Donc la position d'échouage, le bateau va rester quand même presque un demi. Et de là, il a fallu creuser donc un chemin. Donc là, il a fallu, pas un chemin, une tranchée, pour aller jusqu'à l'endroit où se trouvent les obélisques qui sont là. Tout ceci était bâti. Et il a fallu supprimer donc des bâtiments, des habitations. Au total, une trentaine de feux ont été supprimés qu'il a fallu évidemment reconstruire. Et tout ça, bien sûr, le gouvernement égyptien, c'est normal, il nous l'a fait payer. On nous a donné les deux obélisques, on ne nous a pas donné le reste. Alors, autre difficulté, il fallait profiter de la saison sèche pour faire le désensablement de l'obélisque. Parce que le monument était enterré de 4 mètres dans le sable. Et quand le Nil montait tous les ans, quand il prenait sa place la plus haute, le niveau le plus haut, et bien le sable s'imprégnait de l'eau. Et à partir du moment où vous avez un trou, vous avez une tranchée, n'importe quoi, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, elle le remonte. Voilà. Alors donc, il fallait absolument que l'obélisque soit retiré donc, de sa position, en position de départ, avant que le Nil remonte. Alors voilà, tous les dessins et les planches qui sont là, c'est des documents qui ont été dessinés, enfin, si ce n'est pas lui, c'est sous ses ordres, par Apollinaire Lebrun, hein, y compris cela. Alors voilà, donc les détails de l'obélisque en question. C'est un monolithe de 23 mètres, 80 et 23 mètres 80, disons au total. C'est-à-dire depuis la base jusqu'à là-haut. qui fait 2,50 m à la base, parce que toutes les dimensions, je les ai reprises à partir de l'échelle qu'il avait donnée, parce qu'on n'avait rien. Nous n'avions absolument rien d'autre pour faire ce travail, tout ce que je vais vous montrer là, que les quatre dessins dont je voulais parler au début. Nous n'avions rien d'autre. Et depuis, on n'a rien trouvé d'autre. On a eu des renseignements, comme je vous ai donné tout à l'heure, quelques renseignements relationnels entre Champollion, Laninac, etc., avec le vice-roi d'Égypte, mais tout ça, tout le reste, il a fallu pêcher à droite et à gauche. Alors donc, là, vous avez les quatre faces de l'obélisque qui sont présentées. C'est un caillou qui pèse quand même 230 tonnes. On ne remet pas ça comme on veut. Hein. Et alors, à la base, il y avait un soubassement assez important, comme vous voyez là, mais ce n'est pas le vrai échelle. Ça, c'est à l'échelle de moitié du soubassement. Alors là, on a le caillou de 230 tonnes d'arrivée, et là, l'ensemble du piédestal, du soubassement. Le piédestal, c'était ça, ici. Le soubassement, c'était ça. Alors, le soubassement est resté sur place complètement inutilisable, parce qu'il avait été rongé par le sel, par les sels différents et tout. Là, il n'avait pas résisté à la corrosion. Et le dessus avait été très abîmé aussi, à cause de l'érosion éolienne et autre chose. Bon, alors, les personnages qui sont là, et demain, vous auriez quelques peines à savoir ce que c'est, alors je vous renseigne tout de suite, ce sont des babouins qui sont représentés ici pour soi-disant adorer le lever du soleil. Et alors là, il y a eu des problèmes, parce que quand les dix babouins sont arrivés en France, il y a une association bien pensante, excusez, je n'ai pas le droit de dire, il faut que je fasse attention à ce que je dis, moi aussi, hein, qui s'est dressé vertement contre la réutilisation des babouins en question, parce qu'ils avaient oublié de remettre leurs culottes. Si tant il est vrai qu'ils en avaient eu. Alors, protestation, du coup, les babouins, ils sont actuellement dans les sous-bassements de je ne sais pas trop où. Enfin, ils sont à Paris, ils sont à l'abri des regards. Si vous voulez voir les babouins, si vous avez des relations, il est possible qu'on peut peut-être vous autoriser à aller les voir. Alors là, on s'est aperçu qu'il y avait quand même, tout à l'heure on le verra peut-être mieux, on s'est aperçu que l'obélisque n'était pas en aussi bon état qu'on le croyait. Et en particulier, le soubassement, vous voyez, il était... Alors ça, c'est l'obélisque, la base de l'obélisque. Et là, vous voyez, il y a une grande fissure qui part de là, qui va là. Et là, vous voyez deux genres de nœuds papillons. Ce sont des réparations faites avec des systèmes de glavaux à double niveau, double. Donc c'était déjà connu, ce système était déjà connu par les Égyptiens à l'époque. Et ça prouve que le haut degré de technicité qu'ils avaient en la matière. Alors le reste, alors donc ça, vous ne le verrez pas, tout ça c'était rongé par la corrosion, donc on ne le verra jamais. Non, alors là, je peux vous raconter tout ça. Alors maintenant, première phase des travaux, il faut abattre l'obélisque. Alors, parce que voilà, on va mener l'affaire. Alors, en gros, je conséquences des détails techniques. Bon, donc, le problème, il y a 230 tonnes à amener en position horizontale. Au préalable, 4 mètres de sable enlevé. Ensuite, il faut avoir un système de tirage, que vous voyez ici, pour amener l'obélisque dans cette position. Alors là aussi, quand on va l'avoir sorti du sable, on se rend compte qu'il était fendu au beau milieu. Vous voyez ? Et là encore, il y a des réparations. Et ces réparations avaient été faites avant qu'il soit planté. Alors il a été planté au XIIIe siècle avant notre ère. Donc ces gens-là, vous voyez, ils savaient quand même déjà bien résoudre des difficultés qui existent toujours. D'ailleurs, je vous signale qu'on les résout toujours avec le même système. On n'a jamais inventé quelque chose de mieux. Bon, alors, le principe. On va tirer de ce côté-là jusqu'à une certaine hauteur. Et à partir de là, cette hauteur, avec un autre système de tirage, ici, que vous avez là en détail, on va retirer le pied en hauteur en le faisant passer ici, de façon à étaler l'obélisque horizontal. Mais alors, la difficulté, c'est que il faut que le tirage dans ce sens et le tirage dans l'autre soit rigoureusement sans coordonné. Oui, parce que s'il n'était pas coordonné, c'est la catastrophe. Hein, 10 cm de mou, comme on dit, hein, le câble casse et tout est fichu et les gens qui sont dessous avec. Voilà, alors ça c'est le grand principe lorsque cette machine infernale que vous avez là, qui a été créée par le bras. L'opération a duré, à votre avis, qui c'est ce qui se lance ? Pardon ?
Pendant la saison sèche, on va dire 2 mois, 3 mois.
Ah, vous êtes long. Allez, je vous ai aidé un peu. Raccourcissez.
15 jours.
Non, allez, on ne va pas perdre de temps. 2 heures. Non, oui, non, non, je suis pour vous, j'ai été surpris. Mais il ne faut pas être surpris, je veux dire, pour moi. Parce que ce genre d'opération, moi j'ai assisté une fois dans ma vie, un genre d'opération comme ça, mais encore beaucoup plus petit. Et on est obligé de faire vite, parce qu'étant donné les efforts que l'on fait subir au matériel, il vaut mieux que ces efforts, qui sont des efforts, on arrive au maximum de ce qu'on peut leur demander, il vaut mieux qu'ils soient supportés le moins longtemps possible. Alors là, 2 heures. Est-ce que tant que la gravure est là, il y a des questions à poser? Bon, ce que je vous ai expliqué, ça vous convient? Bon, merci. Bon, mais écoutez, puisqu'on en est là, on va continuer. Alors là, je vous dispense des laïus. Alors là, maintenant, c'est l'opération dans l'autre sens.
Madame pose une question.
Alors là, attendez, je vais me déplacer parce que j'entends pas.
C'était des animaux. C'était des animaux qui tiraient par la force.
Non.
Ou les hommes.
Voilà, excellente question que cette dame vient de nous poser. Parce que j'ai pensé au système, je vous l'ai expliqué. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est la force motrice d'où elle venait. Alors, cette dame l'a demandé, elle a raison. Vous avez raison, madame. C'est une question comme ça qu'il faut poser. Parce qu'elle m'a dit, qu'est-ce qui t'y est attiré ? Est-ce que c'est des animaux ? Ben non. Alors là, je vais vous expliquer. Ici, ça se voit peut-être pas très bien, je regarde. là. Je ne sais pas si vous voyez l'espèce de rayonnage autour. Vous voyez ? Vous voyez des rayons qui partent partout. Bon, et c'est ce qu'on appelle un palan. Alors, vous avez au milieu, vous avez une pièce de bois cylindrique qui tourne, et dans cette pièce de bois, il y a des barres, si vous voulez, qui sont incrustées, qui sont fichées dedans, et sur ces barres, il y a des hommes qui poussent. Vous avez ça surtout dans le temps, sur tous les bateaux à voile, hein, parce que évidemment, c'est avec ça qu'on mettait tout en place. Ce qu'on appelle le palan. Alors, là, j'ai fait un bout de calcul. Enfin, je vous rappelle. Bon, vous avez 230 tonnes à tirer ou à soutenir. J'arrive au même. Alors, là, ils ont employé 3 palans pour le tirer, enfin, pour le déplanter, ils l'ont fait avec 3 palans. Mais pour le tirer, ils ont doublé. On a mis 6 palans. Pourquoi ? Parce que là, il s'agit de faire tomber. Donc, c'est la force d'inertie, en fait, qui fait le travail, qui fait le plus gros travail. Tandis qu'une fois que l'obélisque est couché sur le sable, eh bien, il ne fait plus rien. Hein. Il faut tout faire. Alors, ils ont doublé les palans. Alors, j'ai fait le calcul pour retomber à quelque chose qui me paraît à peu près normal, en comptant 3 hommes par barre. On en arrive à ce moment-là à ce que chaque homme fournisse un effort de 50 kg, ce qui est demi. Voilà. Alors, pour arriver à 50 kg, avec 6 palans, hein, ce qu'on verra à l'image suivante, avec 6 palans, 3 hommes par barre, on arrive à 50 kg d'effort à fournir avec le système. On peut passer à la suivante, s'il vous plaît. Voilà. Alors là, j'osais dire 6 dans ces 4. C'est 4. Bon, alors, là, ici, le 6. Alors, le bateau en question. Le bateau en question, il a deux particularités. Alors, je vous ai dit qu'il était à fond plat, c'est ce que vous voyez là-bas. Ça, c'est la coupe au mètre court, c'est-à-dire la partie la plus large. Alors, il a 6 mètres d'hauteur entre le fond extérieur du bateau. Le fond extérieur du bateau et le pont supérieur, il y a 6 mètres. Il a 8 mètres de largeur et 40 mètres de longueur en tout. L'avant du bateau se détache. Et ça, il fallait inventer ça. Bon. Alors, c'est pour ça que vous voyez ici l'avant du bateau qui est suspendu après train. Pour qu'on puisse faire rentrer dans l'obélisque que vous voyez là, et qui est bien emmailloté dans une protection faite avec du bois, des madriers, etc. Alors le bateau, 40 mètres est disponible, en gros 24 mètres d'obélisque, et ici les 4 palans qui tirent, on va tirer dans ce sens pour faire avancer dans ce sens par le jeu des poulies et des renversements de tirage. Voilà ce que je pouvais vous dire à ce sujet-là. Bon, alors tout s'est bien passé. Alors là, évidemment, ça a été beaucoup plus long parce qu'il a fallu, il y avait quand même sur les 400 mètres, il y avait quand même 300 mètres. Il fallait faire en tirant le bateau. Donc, on ne pouvait pas avoir 300 mètres de longueur de câble. Parce que alors là, ça aurait été une catastrophe. Alors, on était obligé, donc au fur et à mesure qu'on se rapprochait du bateau, il fallait déplanter les treuils, replanter les treuils, ancrer les treuils, et dans le sable. C'était pas commode, il fallait aller chercher le bon sol, je ne sais pas quelle profondeur. Soit il y avait 3 ou 4 ancres par ballon. Alors, oui, déjà, alors, 72 hommes par volet de tirage. Et ils se remplaçaient assez rapidement, parce que 50 kilos, ça va bien pour le traîner depuis ici jusqu'à là, et quand vous avez fait ça pendant quelques heures, il est bon de changer personnel. Hein. Bon, alors là, ça c'était ce qu'ils avaient fait à l'intérieur du bateau. Il avait fallu faire aussi un plancher, de façon à faire glisser tout ça là-dessus. Bon, des questions ? Ah oui, si, alors bon, mais puisque je suis là, allez, ça fera des déplacements de loin. Bon, alors, maintenant il faut organiser le retour de tout ça. Le Luxor, comme vous voulez, a été rematé parce que pour faire l'opération de rentrée d'entrée et tout, il avait fallu évidemment tout démonter, tout démolir. Ils en avaient fait une barge, je pense que vous avez vu tout à l'heure. Oui, c'est plus que la coque. Alors là, il est remonté, on l'a remêlé, et il est à flot, prêt à partir. Le Nil est remonté, et je vous donnerai les dates tout à l'heure. On va le tirer. Ils vont se servir de la voile, et là je ne sais pas, ils ont dû quand même avoir un souci, pour le remonter jusqu'à la mer, jusqu'à Rosette. Et là-bas, il a fallu retrouver le fameux remorqueur, le Sphinx, l'unique bateau à vapeur de la marine royale, pour le ramener jusque presque à Paris. Alors voilà, et ça c'est des dessins qui ont été faits. C'est Jean Lédis qui l'a fait.
Mais là, il descendait, le
Nil.
Il le descendait, le Nil.
Ah non, là, ils sont en mer.
Non, mais en haut. Je suppose qu'ils avaient plus qu'à descendre le Nil, quand même. C'était moins pénible que la montée.
Mais heureusement pour eux.
Oui, ils le descendaient. Ils ont été obligés de. Avec les voiles,
ça a tout. Ah, mais de toute façon, il était obligé de se servir des voiles, aussi bien dans un sens que dans l'autre. Parce que quand ils sont descendus, c'est avec les loups, avec les bateaux indigènes, avec les flots tirés, mais les avides. Hein. Ah, donc oui. Il était avide quand même, ça allait quand même un peu mieux.
Oui, à l'année.
Mais après, pour remonter, il y avait des 230 tonnes de cailloux, plus 240, ça j'ai oublié de vous le dire. Qu'ils n'ont pas embarqué les babouins, mais ils ont embarqué quand même 240 tonnes de terre de plus pour faire les sortes. Et là, tout à l'heure, je vais vous parler de la Corrèze, l'intervention de la Corrèze. Alors là, ils ont mis pas mal de temps, je vous donnerai les dates tout à l'heure. Ça a été quand même plutôt long. Par contre, les Anglais qui, eux autres, avaient apporté celui d'Alexandrie, ils ont eu pas mal, mais durant beaucoup plus tard, hein. Ils ont eu beaucoup, beaucoup de mal à arriver jusqu'en Angleterre, parce que le bateau n'était peut-être pas tout à fait ce qu'il fallait. Mais l'obélisque était quand même plus petit, tout en étant quand même, je pense qu'il devait quand même faire ses 150 tonnes hein, au minimum. Hein. Bon, alors ça, c'est les calculs que je vous avais dit. Ça nous fait 50 kilos. 50 kilos d'effort par homme, avec 3 hommes par masse. Oui. Bon, alors maintenant, nous avons le... Alors là, on va revenir un peu en arrière. Parce que on a l'objet, là. Ça va. On a l'objet qui est en France, qui est à Paris. Ah, il y a quand même eu quelques petits problèmes pour l'amener jusqu'en France. Alors d'abord, tout s'est bien passé pour aller depuis Rosette jusqu'à Toulon. Il n'y a pas eu de problème. Mais une fois qu'ils sont arrivés à Toulon, le capitaine du port leur a dit, mais monsieur, c'est très bien, mais étant donné vos antécédents, d'où vous venez, puisqu'il s'est passé avant, vous êtes en quarantaine. 25 jours. Et bien, 25 jours sur un bateau, quel qu'il soit, je peux vous dire qu'ils ont pas dû. Ils ont dû s'ennuyer, croyez-moi. Bon, alors déjà, il y a eu ça. Et puis ensuite, jusqu'au Havre, il n'y a pas eu de problème. Par contre, il y a eu pas mal de problèmes pour la circulation sur la Seine. Parce que les méandres sont assez resserrés et en mer, on a de la place. On peut même, selon l'état de la mer, on peut allonger la remorque ou la raccourcir. Seulement, quand vous êtes dans ces endroits-là, la raccourcir, il y a une limite qu'il ne faut pas atteindre, pour les raisons que tout le monde connaît, je présume. Hein. Et puis, on ne peut pas non plus l'avoir trop longue à cause des méandres et des sinuosités du cours d'eau. Alors, ils ont été obligés d'utiliser le halage. Avec, de temps en temps, il a fallu mettre jusqu'à 18 chevaux pour traîner le bateau. Ça ne s'est pas toujours bien passé avec l'administration pour des ponts et chaussées. Ils ont trouvé le moyen de leur créer le maximum de tracasseries. Le bateau avait à certains endroits plus ou moins accroché les ouvrages d'art, évidemment, constat, discussion, etc. Voilà. Alors ça, c'est quand même à dire, parce que après tout ce qui leur était arrivé, ça n'a pas été très facile pour ramener tout ça. Alors, il avait fallu, évidemment, une fois que l'obélisque a été déposé à quai, on l'a ensuite déplacé deux fois. Parce que pour des raisons diverses et variées, ça ne leur plaisait pas, c'était pas ici, il fallait pas le mettre là, il fallait le mettre ailleurs. Donc deux fois, il a fallu déplacer les 230 tonnes. Ensuite, une fois que tout le monde a été d'accord pour l'emplacement, on fait le terrassement, et puis on s'est aperçu qu'au point de vue sol, là-bas, dans le sous-sol parisien, c'est comment ça se passe, il faut atteindre le rocher, et puis il est ce qu'il est. Bon. Alors, il y a eu plusieurs solutions d'envisager. La première solution, ça avait été de faire socle avec un damier de dés en granit. Et puis la solution a été abandonnée, évidemment. évidemment, ça, moi, je vous avoue qu'on m'aurait proposé ça, je ne me serais jamais engagé dans une aventure pareille. Parce que l'été en granit, qu'est-ce qui vous dit qu'ils vont tous s'enfoncer de la même façon? Bon, même avec un sol présumé régulier, moi je sais que je ne serais pas lancé là-dedans. Bon, alors ensuite, il y avait une question de hauteur. Parce que le trou qu'on avait fait, ça amenait assez profond. Et l'obélisque n'est pas très très haut, hein. Il ne fait jamais que 24 mètres de hauteur. Et une fois qu'il s'est trouvé, qu'on l'aurait vu vertical sur la place de la Concorde, ça faisait un peu court. Donc il a fallu envisager un piédestal. Et ce piédestal, on a voulu qu'il soit autant que possible dans un matériau qui ressemble au mieux avec le monument lui-même. Et l'architecte, c'était Itov, qui s'est occupé d'ailleurs de tout l'aménagement de Paris à cette époque-là, qui donc a hérité l'histoire de l'implantation de l'obélisque. Et il a été donc à la recherche de pierres qui pouvaient ressembler au maximum. Et il a fini par les trouver en Bretagne. Il a donc trouvé ces pierres et ils ont fait un marché après adjudication, bien sûr, qui a eu lieu le 15 mai 1834, vous vous rendez compte, depuis le temps qu'on est sur l'affaire. Et c'est une entreprise, l'entreprise Guitastrain, qui a eu l'adjudication et qui a coûté la fourniture et le transport ont quand même coûté la bagatelle de 191 250 francs. C'est l'époque. Ce n'est pas des francs papiers. Bon. Le socle d'origine, donc je vous l'ai dit, comme la pudeur publique l'avait refoulé, bon, il a réessayé, je l'ai marqué là, il est dans les réserves du musée du Louvre, si vous voulez le voir, il faut faire la demande, je ne sais pas si on vous autorisera. Bon, alors, la question de l'aspect, bon, alors ça, évidemment, les ponts et chaussées ont trouvé que. Ça, on avait fait beaucoup de dégâts. Je pense pas. Je sais par expérience que ce sont des gens, ils ont raison, d'ailleurs, qui défendent bien le patrimoine qui leur est confié. Rien de particulier ensuite. Le second obélisque. Étant donné ce que ça avait coûté pour le premier, on a pensé que c'était peut-être pas tout de suite qu'il fallait faire une demande de crédit, et ça a été abandonné. Alors donc, on n'a pas été chercher le deuxième, qui est toujours là-bas. Alors oui, là j'avais noté ceci, parce que cette histoire d'inventer tout un tas de systèmes pour planter et puis transporter ces obélisques. Mais ça avait déjà été fait, hein, parce que le premier qui a été déplacé, c'était en 37, oui, non, 27 avant Jésus-Christ, et le second en 337 après Jésus-Christ. Donc ils avaient bien trouvé un système pour le transporter. Alors là je l'ai trouvé. Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai trouvé. Bon, enfin, on l'a trouvé, on sait cette source sûre, mais on n'a pas de précision là-dessus. Alors, on conserve celui qui est là-bas. Est-ce qu'on a la photo? Ah ben si, il faut que je vous explique ça. Bon, alors, voilà, ça, c'est le chargement des blocs de granit sur le Luxor. Voilà, ça c'est la carrière de Bretagne. Alors ça, vous avez ici le piédestal. Ça, je présume que c'est le socle. Et j'avais trouvé là, voilà le cratère qui est ici. Et puis le reste, c'est ce qui a servi de faire des dallages autour. Et alors vous avez ici donc le Luxor avec, vous voyez, l'avant du bateau. On supprime l'avant du bateau et ensuite on le remet. Bon, c'est facile à dire, mais il faut vraiment que l'ajustage soit fait comme il faut. Parce que vous voyez tout de suite pourquoi. Alors, il a été raconté tout un tas de fables là-dessus. Et alors là, je vais en revenir alors à la Corrèze, parce que je vous ai dit tout à l'heure, au début, je vous ai parlé d'un caillou de 100 tonnes qui avait été arraché de la carrière de la Motte, à Tulle, et qu'on avait transporté, donc, place de la Concorde. Alors, il y a... nous avons quand même un extrait d'un bulletin de l'Évosie de numéro 86, je ne sais pas en quelle année ça peut être, personne. Et alors c'est un petit article qui avait été fait par M. Bonnet, qui était instituteur à Tulle, mais M. Bonnet avait fait cet article d'après des renseignements verbaux qui lui avaient été donnés. Et ces renseignements, évidemment, il y a eu confusion. Déjà au départ, il dit qu'on avait fait un premier bateau pour aller chercher l'obélisque, et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'on ne venait pas, etc., il a fallu revenir, et il dit, on a été obligé d'en construire un sur place. Alors ça, c'est absolument faux. Il n'a jamais été construit de bateau à Luxor, et je peux vous le garantir parce que nous y sommes allés deux fois et il n'y a jamais eu sur place d'installation maritime, d'installation de construction maritime à Luxor. Ça, je vous le garantis. Par conséquent, il y a eu confusion entre le bateau qui avait fait chou blanc pour aller chercher l'obélisque comme on avait refusé, et celui de Luxor. Il n'y a pas d'autre bateau que celui que vous voyez là. Bon, est-ce qu'il y a autre chose derrière? Il n'y a rien d'autre. Bon, ben, écoutez, là, voilà, c'est là-dessus que ça va.
Bon, mais alors, en principe, ce caillou qui est
venu de Corrèze, alors, là, voilà, il me semblait que j'oubliais quelque chose. J'oubliais le fameux caillou. Alors, le fameux caillou, on en parle absolument, mais non, toi, ça fera ça, il faut me rappeler. Alors, le fameux caillou, on n'en a trouvé aucune trace. Nous, ni dans le livre de... La couture. Bon, la couture donne beaucoup de détails, beaucoup de renseignements sur la construction, ce qu'on a employé, mais il parle nulle part, il ne parle de ces 100 hommes qui ont voyagé depuis Tulle jusqu'à Paris. Le musée national n'en parle pas non plus. On ne le trouve sur aucun plan, aucun dessin, nulle part, on parle de ce caillou. Or, nous avons un article de Debussy qui donne des précisions sur le caillou en question. C'est un caillou qui faisait un monolithe, qui faisait quand même 4 mètres, alors Et vous bien 4 mètres sur 4, c'est... Non, 3 mètres sur 3 et 4 mètres de longueur, hein, ça ne passe pas inaperçu. Hein. Et il, alors, le temps qu'il a mis pour aller de Thun jusqu'à là-haut, alors ça, on ne le sait pas. On sait quand il est arrivé, mais on ne sait pas quand il est parti. Alors, on ne sait pas combien de temps il a mis pour y aller. Mais ça, c'est certain. Alors, il y aurait peut-être un moyen de savoir, c'est qu'il y a eu un incident avec la gendarmerie. Mais on ne nous dit pas où, donc on ne sait pas quelle est la brigade de gendarmerie qui est intervenue. Mais il y a eu un incident avec la gendarmerie, je ne sais plus où, et là, l'affaire s'est bien traitée, puisque Travaux a montré une lettre qui est menée directement par le bureau de France, donnant libre passage partout et de montant aux autorités locales de lui faciliter le passage. Alors ça, on ne l'a quand même pas inventé. Hein, ça, c'est quelque chose qui a vraiment existé. Alors pourquoi on ne parle pas de ce caillou? Parce que lui, il était destiné donc à remplacer le système multiple avec des dés d'un mètre cube et les uns côté des autres, ce qui, à mon avis, c'était quelque chose qui était vraiment trop risqué. Et alors, ils ont préféré faire un monolithe pour remplacer ça, et c'est le monolithe en question. Moi, je suis persuadé que ce n'est pas un canular. Et alors, pourquoi est-ce que personne n'en parle? Alors, ça,
il
se fait.
Et il est où?
Alors, moi, je présume que le caillou, il est sous l'obélisque. Parce que qu'est-ce qu'ils en auraient fait?
Mais alors ceux-là, ils sont sous l'obélisque.
Ah non, ceux-là, ils sont employés, tous ceux-là. Là, vous pouvez les voir tous. Là, celui-là, vous pouvez le voir. Celui-là, vous pouvez le voir. Et celui-là, vous pouvez le voir.
Alors, on aurait empilé dessus.
Au fond, tout à fait dessous pour elle, oui. Oh, mais ça, c'était pas le plus difficile à faire.
En dessous, il y a des... À Paris, il y a des...
Ah ben, il y a des trous.
Il y a des trous, donc si on fait...
Eh ben, ça fait 100 tonnes de plus.
On descend, ça c'est dans les catacombes,
hein. Ben, ça fait 100 tonnes de plus. Et sous les 100 tonnes...
Et
alors,
quel intérêt on a à mettre autant de pierres sous l'obélisque? Quel intérêt on a à augmenter les points?
Parce qu'ils ont jugé qu'il ne fallait pas mettre tout le poids. Parce que l'obélisque prendrait 230 tonnes sur 4 mètres carrés et demi, ça fait une pression énorme. Donc ce qu'il faut, c'est répartir la pression. Aujourd'hui, on aurait fait un ouvrage en béton armé de façon à répartir la pression. Mais en ce moment-là, ils n'ont pas usé du béton armé, ils ne devaient pas avoir la technique, et ils l'ont fait comme ça. Alors moi, je suppose que ces cailloux, il faut bien qu'il soit allé quelque part. On est sûr qu'il est arrivé là-haut. Et on est sûr qu'il avait été destiné à l'obélisque.
En face, c'est d'après les témoignages d'un monsieur...
Non, de la dame qui a vu... C'est l'histoire de l'homme qui a vu l'ours.
Oui, c'est de l'institut. Qui raconte dans un bulletin de Némosique qui est quand même récent, c'est le numéro 85.
Oui, 86.
Oui. Bon, donc c'est un monsieur de Napa, monsieur Bonnet.
Ah oui.
Et donc il a le témoignage de quelqu'un.
D'une générale.
De quelqu'un qui date de cette époque-là. C'est un nommé
Tramon,
je crois.
Ah, Tramon, lui, il a transporté. Voilà. Tramon a inventé le chariot. C'est lui qui l'a inventé. Et il a équipé 22 chevaux. Parce que j'ai fait compte. Ça faisait en tout et pour tout, les chevaux, plus le chariot, 35 mètres. Eh bien, pour prendre des virages avec ça, je vais vous dire que ça devait être un petit problème.
Hein. Et ça ne peut pas être sous un autre monument parisien.
On va savoir.
Ça pourrait être la colonne de Vendôme. Il y a d'autres monuments de Paris qui ont pu nécessiter
Ils se seraient du bas, se seraient retrouvés devant le même problème.
De toute façon, ça peut être facile de demander au service du sous-sol parisien. Si vous
le demandez,
il y a une pierre sous l'obélisque.
Ah, mais de toute façon, je vous dis. Alors, j'avais demandé à l'une des personnes, qui n'est pas là d'ailleurs aujourd'hui, qui faisait partie donc de notre petite équipe, mais qui est à Tulle, et je leur ai demandé si, comme elle avait des acquaintances avec la gendarmerie, en particulier avec une personne de haut grade, j'ai dit, voyez avec eux si on ne pourrait pas avoir quelque chose là-dessus, si on ne pourrait pas retrouver cette histoire. Parce que dans l'armée, vous savez, tout ce qui se passe, on passe. Ça, c'est obligatoire. Vous avez tué une mouche, il faut savoir où elle a été tuée, on le marque où c'est, hein, et la date. Bon, alors, non, mais là, j'exagère à peine. Bon, alors là, étant donné qu'il y a eu un incident avec la gendarmerie, s'il n'y avait pas eu la lettre que Tramon avait, la lettre de route que Tramon avait, la gendarmerie, il était bloqué là sur place, il restait là avec ses 22 chevaux, son chariot et les cailloux. Donc, ça, il a bien, une fois qu'il est rentré dans la gendarmerie, son premier travail, ça a été de raconter ce qui s'était passé. Et il a fait son rapport, ça j'en suis sûr, il existe.
Monsieur Bonnet a été l'instituteur de mon père.
Ah, oui,
c'est pas vrai. Mon père aurait 108 ans.
Oui, d'accord.
Donc Monsieur Bonnet a au moins 20 ans plus que lui.
Voilà.
Il faudrait au moins 20 ans plus que
lui. Oui.
Donc c'est pas un témoin.
Ah, mais moi je
un témoin direct, mais c'est des. Ça remonte beaucoup moins.
Oui, c'est ça.
Ça peut être une avancée.
Donc le Bonnet, lui, il a raconté ce qu'il savait. Regardez, c'est comme quand il dit, par exemple, qu'on a reconstruit sur place un bateau, on était bien capable de construire un bateau de 40 mètres de long, l'ouvre même aujourd'hui. Parce que c'est vite, hein.
Alors là, c'est l'énigme de la pierre de Corinthe.
L'énigme de la pierre de Corinthe.
Et c'est curieux, évidemment, d'aller chercher si loin.
Vous l'avez, là,
une donc. Pierre, alors qu'on en a plein en Bretagne.
Vous l'avez,
donc. Beaucoup plus près, finalement, quand même, que la Corinthe.
Et on ne devait pas
présider en Angleterre. On a la société, ça. Le
capitalisme.
Ah non, mais ça, moi, je l'ai mis entre parenthèses, l'affaire, parce que là, vous savez.
C'est une énigme.
Une énigme. Et il y a des détails. Hein. Un caillou de 100 tonnes, ça ne passe pas une aversion. Hein. Mais vous voyez qu'il aurait été, si on devait débiter un petit morceau, il aurait été plus intelligent de faire venir les petits morceaux. Parce que quand on débite dans le rocher, il y a de la perte. Alors pourquoi acheter du rocher pour le gaspiller, ça je ne crois pas.
Bon. C'est amusant pour les Bretagne,
ah ben là,
sans aucun problème.
Non.
Et puis cette pierre de Corrèze, c'est un mystère.
Et ben voilà.
Il pourrait aussi être dans les. Dans la liste des choses à payer.
L'inventaire.
Quel maître l'obéissance. Ça pourrait être dans le. Voilà,
budget. Attendez, je ne comprends pas bien. Là.
Ainsi, M. Hudorf, quand il a planté son truc, il a payé, vous avez dit.
Ah oui, 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 oui.
Il a carabiné ces pierres-là, donc il a bien fallu qu'il paye le corrézien.
Eh bien, certainement. Donc, il y a une facture qui
est. Il n'y a pas une trace.
On doit pouvoir trouver tout ça dans les mêmes papiers que ceux qu'il a payés.
Il y avait déjà du trafic. Au noir, un gros caillou comme ça, quand même, c'est. Il l'a revendu entre-temps.
Ça,
est-ce qu'on sait s'il est arrivé? On ne sait pas où il est. On ne sait pas s'il est arrivé.
Mais non, mais
bon. Bon,
ben voilà. S'il y a des personnes.